À quoi ça sert d'avoir la foi? À quoi ça sert d'avoir la foi? Beaucoup de gens aujourd'hui pensent que la foi chrétienne, c'est une béquille pour les faibles. Même beaucoup de chrétiens, et sans doute inconsciemment, ne considèrent leur foi que comme une aide pour affronter les aléas de la vie, un peu comme le fait d'avoir une bonne complémentaire santé ou le fait de partir en vacances une ou deux fois par an. Pour tous ces gens, la foi chrétienne, au fond, vous savez ce que c'est? C'est une commodité. Une commodité. Et il y a 2000 ans, dans l'église réformée évangélique de Corinthe, il y avait des gens aussi qui sous-estimaient la portée de la foi chrétienne. Ils étaient chrétiens pour la plupart, mais ils ne voyaient pas, pour ainsi dire, plus loin que le bout de leur nez. À quoi ça leur servait d'avoir la foi? Ils n'en étaient pas bien sûrs. Sinon que c'était chouette de se retrouver entre amis, notamment pour faire une bonne bouffe et pour discuter de qui était le plus sage, le plus intelligent ou le plus spirituel. Et qu'est-ce que ça a donné dans l'église réformée évangélique de Corinthe? Qu'est-ce que ça a donné? Ça a donné des disputes, de la débauche et du désordre dans l'église de Dieu. Et le texte qu'on est sur le point de lire et d'étudier se trouve à la fin d'une lettre que l'apôtre Paul a écrite à ces gens, aux membres de cette église. Et il a passé une majeure partie de la lettre à corriger leurs erreurs, d'une part, et à répondre à plusieurs de leurs questions, d'autre part. Mais maintenant, l'apôtre Paul, il est sur le point de conclure sa lettre, d'envoyer toutes sortes de salutations à diverses personnes. Et avant de conclure, Paul veut leur rappeler l'essentiel. Il veut leur rappeler l'essentiel. Il veut notamment leur faire comprendre quelle est la portée de la foi chrétienne, afin, comme il le dit d'ailleurs un peu plus loin, afin qu'ils soient fermes, inébranlables, et qu'ils progressent toujours dans l'œuvre du Seigneur. Et vous, ce matin, est-ce que vous êtes ferme? Est-ce que vous êtes inébranlable ce matin? Est-ce que vous progressez toujours dans l'œuvre du Seigneur? Ou bien, est-ce que parfois, comme moi, vous vous demandez finalement à quoi ça sert d'avoir la foi? Le message de ce texte ce matin, on va le voir, c'est que le salut que Dieu nous offre en Jésus-Christ englobe notre existence toute entière. Autrement dit, la foi chrétienne, ce n'est pas pour nous une simple commodité, mais c'est toute notre vie. C'est toute notre vie. Est-ce que c'est toute votre vie ce matin? Le texte qu'on va lire va nous dire pourquoi la foi chrétienne devrait être toute notre vie. C'est parce qu'en Jésus, Dieu d'une part règle notre problème fondamental, d'autre part il restaure notre condition d'origine et enfin il rétablit notre utilité éternelle. C'est un salut complet. C'est un salut complet que celui que Dieu nous offre en Jésus-Christ. C'est un peu comme quand on prend son abonnement Internet chez Free. Quand on a Jésus, on a tout compris. On a tout compris en Jésus. C'est aussi ce que les chrétiens affirment depuis de nombreux siècles avec cette fameuse conclusion du symbole des apôtres. Je crois la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Alors regardons tout ça. D'abord lisons le texte 1 Corinthiens 15. On va lire à partir du verset 17 jusqu'au verset 28. Nous lisons la parole de Dieu. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Mais maintenant, Christ est ressuscité d'entre les morts. Il est les prémices de ceux qui sont décédés. Car puisque la mort, est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Mais chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent au Christ, lors de son avènement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père, après avoir aboli toute principauté, tout pouvoir et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous ses ennemis sous ses pieds. et le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est excepté. Et lorsque toutes choses lui seront soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Je vous invite à prier. Au moment d'étudier ta parole, Seigneur notre Dieu, nous implorons le secours de ton Saint-Esprit, afin que ce soit lui-même qui ouvre notre intelligence et nos cœurs pour recevoir de ta part tout ce que tu veux nous dire, et aussi pour que ce soit lui, ton Saint-Esprit, qui applique ces vérités à nos cœurs et à notre vie, à ta gloire et au nom de Jésus. Amen. La foi chrétienne, ce n'est donc pas une commodité, mais c'est toute notre vie. D'abord, je le disais, parce qu'en Jésus, Dieu règle notre problème fondamental. Il nous accorde le pardon ou la rémission de nos péchés. C'est ce que dit Paul dans les versets 17 à 19. Si Jésus n'est pas ressuscité, dit-il, alors notre foi, qui n'est alors qu'une simple commodité, est vaine, elle ne sert à rien. Ça veut dire que nous sommes encore dans nos péchés, que nous ne sommes pas pardonnés de nos péchés, que la rémission des péchés n'existe pas pour nous, que nous sommes perdus et que nous sommes les plus malheureux ou les plus à plaindre de tous les hommes. La foi chrétienne, vous voyez, c'est peut-être utile pour faire face aux aléas de la vie, mais ce n'est pas de cela dont il s'agit avant tout. La foi chrétienne repose avant tout sur la nécessité des hommes d'être absous de leurs péchés pour pouvoir se tenir un jour dans la présence du Dieu vivant qui est parfaitement juste et saint. Alors si au départ votre foi chrétienne consiste en quelque chose d'autre qu'à croire, comme dit Paul, en celui qui a ressuscité d'entre les morts Jésus, notre Seigneur, livré pour nos offenses et ressuscité pour notre justification, alors votre foi, en effet, ne sert pas à grand-chose et elle ne mérite probablement même pas d'être appelée chrétienne, votre foi. Si vous espérez en Jésus pour des choses de cette vie seulement, comme par exemple pour la guérison d'une maladie, ou pour le bien-être émotionnel, ou pour une expérience mystique, ou pour la prospérité matérielle, ou même pour l'exorcisation de votre sentiment de culpabilité, laissez-moi vous dire quelque chose. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour obtenir ces choses. Vous n'avez pas besoin d'être chrétien pour obtenir ces choses. On peut très bien être un musulman et être riche. On peut très bien être bouddhiste et être bien dans sa peau. On peut très bien être un athée et guérir miraculeusement d'une maladie. Mais ni l'islam, ni le bouddhisme, ni l'athéisme, ni aucune religion, ni aucune autre religion ou philosophie dans le monde ne peut vous offrir la pleine et entière rémission de vos péchés, comme elle nous est offerte en Jésus-Christ. Parce que seul Jésus-Christ s'est offert en parfait sacrifice pour expier nos péchés, c'est-à-dire pour payer la dette que nous imposait la parfaite justice de Dieu. Et seul Jésus-Christ est ressuscité des morts pour garantir notre libération des conséquences dans lesquelles nos péchés nous ont entraînés. Vous savez, il existe aujourd'hui toute une branche du christianisme, protestantisme et catholicisme confondus, qui a été influencée par le modernisme et qui met en doute la résurrection physique de Jésus, sous prétexte qu'un mort, évidemment, ça ne ressuscite pas. Les adeptes de ce genre de rationalisme mettent en avant finalement l'idée que l'expérience qu'ont faite les disciples quand ils ont vu, touché et dialogué avec Jésus, c'était en fait une expérience mystique. D'accord ? Jésus se serait manifesté à eux, certes, mais dans des visions. Pas physiquement, pas dans la chair, mais dans des rêves, dans des visions, dans des expériences mystiques. Mais l'apôtre Paul ici est en train de nous dire, dans ce texte, que si cette idée est vraie, ça voudrait dire que nous sommes encore dans nos péchés. Autrement dit, si Jésus est réellement mort sur la croix pour expier nos péchés, mais qu'il n'est pas réellement sorti vivant du tombeau, ça veut dire que notre foi en lui ne sert à rien, sinon à nous rendre encore plus malheureux. Pourquoi? Eh bien, imaginez que vous avez une dette d'1 million d'euros envers votre banque. Et comme il vous est impossible de rembourser 1 million d'euros, alors on vous met en prison. Seulement voilà que quelqu'un de très riche, quelqu'un qui vous aime beaucoup, prend contact avec la partie civile de cette affaire et rembourse intégralement votre dette. Vous voilà acquitté. Seulement, à quoi cela servirait-il si aucun ordre concernant votre libération était communiqué aux autorités pénitentiaires? Au lieu d'être un coupable derrière les barreaux, vous seriez un innocent derrière les barreaux. Vous seriez plus malheureux ou moins malheureux? De la même façon, Paul dit que si Jésus est mort pour nos péchés, mais qu'il n'est pas réellement ressuscité, ça aurait beau nous permettre d'être pardonnés de nos péchés, dans cette vie, cela ne nous libérerait pas pour autant de la geôle dans laquelle nos péchés nous ont placés. Et cette geôle, c'est le caractère éphémère de notre vie, c'est notre mortalité. Et cela nous amène au deuxième point. Deuxième point. La foi chrétienne, donc, on le disait, ce n'est pas une commodité, mais c'est toute notre vie. D'abord, parce que en Jésus, Dieu règle notre problème fondamental, mais deuxièmement, il restaure notre condition d'origine. Il restaure notre condition d'origine. Par la résurrection de Jésus, en effet, Dieu a garanti notre future résurrection. La mort des hommes est une anomalie dans le monde. C'est une anomalie dans le monde. Nous ne sommes pas faits pour ça. Nous ne sommes pas faits pour mourir. Et c'est pour cette raison d'ailleurs que c'est si douloureux de perdre un proche. Parce qu'on n'est pas fait pour ça. Paul le dit clairement dans ce texte. La mort est entrée dans le monde, après coup. Et elle est entrée dans le monde par un homme, par Adam, à cause de sa désobéissance. Et vous connaissez bien l'histoire. Quand Dieu a créé Adam, le but n'était pas qu'il meure, mais qu'il vive. Le but était qu'il vive. Mais en choisissant de vivre indépendamment de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Adam s'est coupé lui-même de la source même de la vie. Et avec le premier homme, Adam, eh bien, c'est toute l'humanité qui est déchue. Ce jour-là, l'humanité est devenue mortelle, en quelque sorte. L'humanité est devenue mortelle ce jour-là. Le livre de la Genèse raconte que Dieu a renvoyé nos premiers parents du jardin d'Éden et qu'ensuite il a bloqué l'accès à l'arbre de vie afin que nous ne vivions pas éternellement. C'est pourquoi le jour où vous êtes né, c'est aussi le jour où vous avez commencé à mourir. Mais voici ce que dit Paul dans ce passage, c'est que de la même façon qu'Adam a représenté toute l'humanité quand il a désobéi et quand il a été par conséquent condamné à la mort, de la même façon, Jésus a représenté tous ceux qui se confient en lui quand lui a obéi parfaitement à Dieu et quand il a été par conséquent justifié par Dieu par sa résurrection d'entre les morts. Vous voyez qu'en envoyant Jésus, Dieu a donc inversé les effets de la chute d'Adam au profit de ceux qui, bien qu'étant unis à Adam par leur naissance dans ce monde, sont unis à Jésus par leur foi en lui. Alors au cas où vous vous poseriez la question ce matin, sachez que vous êtes unis à Adam si vos parents sont des êtres humains. Mais sachez que vous êtes unis à Jésus si vous avez placé toute votre confiance en lui. Et si vous êtes unis à Jésus, eh bien selon la Bible, vous êtes destinés à manger de l'arbre de vie. Paul ne dit pas que la résurrection des morts, c'est quelque chose qui va de soi. Il ne dit pas que c'est évident, les morts ressuscitent, tout le monde le sait. Non, bien au contraire. C'est quelque chose d'extraordinaire. Effectivement, le fait de dire avec le symbole des apôtres que nous croyons à la résurrection de la chair, c'est quand même quelque chose d'assez audacieux. Mais ce que Paul dit dans ce texte, c'est qu'on peut être certain de cette chose extraordinaire, c'est-à-dire que les morts vont ressusciter dans la chair. Et on peut en être certain parce qu'il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans l'histoire. Et cet événement extraordinaire, c'est la résurrection de Jésus. Si vous allez vous promener dans les monts du Lyonnais, à la fin de l'hiver, Vous pourriez voir des tas de terrains agricoles sans rien qui pousse dessus. Ok? Tout ce que vous verriez, ce serait de la terre labourée, des flaques de boue, pas le moindre signe de verdure, et il vous serait impossible de savoir ni ce qui est censé y pousser, ni même s'il y a quelque chose qui est censé y pousser sur ces terrains. Mais quelques mois plus tard, au début de l'été, vous verriez peut-être poindre les premières tiges de maïs. Et alors vous sauriez sans l'ombre d'un doute que plusieurs semaines plus tard, il y aurait une belle moisson. De la même façon, Paul est en train de dire ici, dans le texte, que Jésus est les prémices de ceux qui sont décédés. Ce terme de prémice désigne précisément le début d'une récolte. Le début d'une récolte. Dans l'Ancien Testament, vous savez, lorsque démarrait la saison des récoltes, les Israélites devaient cueillir une première gerbe, prémisse de la moisson, disait-il. Et ensuite, ils devaient la présenter au sacrificateur qui devait ensuite dédier cette gerbe à Dieu le lendemain du sabbat. C'était une façon de reconnaître que toute une récolte allait suivre et que cette récolte appartenait en définitive à Dieu. Car c'est Dieu qui pourvoit. Et Paul utilise cette métaphore pour parler de la résurrection des morts. Ainsi Jésus, qui est ressuscité lui aussi le lendemain du sabbat, représente cette première gerbe qui est dédiée à Dieu et qui annonce une grande récolte à venir. Autrement dit, nous savons que les morts ressusciteront parce que Jésus le premier est ressuscité. Nous savons que les morts ressusciteront parce qu'il y a eu cette première gerbe, parce que les premières tiges de maïs sont apparues, parce que Jésus le premier est ressuscité. En quelque sorte, on pourrait dire que la résurrection des morts, ça ne va pas de soi, mais ça coule de source. Ça ne va pas de soi, mais ça coule de source. Ça découle du fait que Jésus est ressuscité le premier. En Jésus, donc, non seulement Dieu règle notre problème fondamental qui est celui du péché, mais vous voyez, il nous restaure aussi. Il restaure notre condition d'origine, celle du jardin d'Éden, en fait, en nous libérant de la tyrannie de la mort. Ça ne veut pas dire que les chrétiens ne vont pas mourir. Ça veut dire que la mort n'a plus aucune puissance sur ceux qui sont en Jésus. Parce que Dieu nous destine à ressusciter avec un corps incorruptible, impérissable, en vue de la vie éternelle en sa présence. En Jésus, en quelque sorte, on pourrait dire, en Jésus, nous sommes dédiés à Dieu. Dieu nous a dédiés à lui-même, en Jésus, comme cette première gerbe qui est dédiée à Dieu le lendemain du sabbat. Et cela nous amène au dernier point. La foi chrétienne, ce n'est pas une commodité, mais c'est toute notre vie. Troisièmement et dernièrement, parce qu'en Jésus, non seulement Dieu règle notre problème fondamental, il nous pardonne nos péchés. Non seulement il restaure notre condition d'origine, il nous libère de la mort. Mais enfin, il rétablit notre utilité éternelle. Dans le texte que nous avons lu, Paul pointe vers un jour en particulier, le jour, dit-il, de l'avènement de Jésus. Il s'agit de ce fameux jour dont il est question dans l'Écriture, où Jésus reviendra sur terre pour mettre un terme à l'histoire et pour inaugurer les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Paul dit que ce jour marquera la fin de tout régime autre que celui de Jésus-Christ. Toute puissance, tout pouvoir, toute autorité, tout règne, tout gouvernement seront définitivement abolis, de sorte qu'il ne restera éternellement qu'un seul royaume, celui de Dieu, et qu'un seul roi, Jésus-Christ, auquel l'univers tout entier sera manifestement soumis. La mort ne sera plus, et la création glorifiera parfaitement son Créateur, et Dieu le Fils lui-même demeurera volontairement soumis à Dieu le Père. Toutes choses demeureront éternellement à leur juste place vis-à-vis de Dieu. Toutes choses demeureront éternellement à leur juste place vis-à-vis de Dieu. C'est ça que Paul veut dire quand il dit que Dieu sera tout en tous. Et l'être humain là-dedans? Eh bien, l'être humain aussi glorifiera éternellement son Créateur. Mais les croyants et les non-croyants ne le glorifieront pas de la même manière. Les non-croyants, qui auront vécu à la suite d'Adam, dans l'indépendance vis-à-vis de Dieu, et qui se seront désintéressés du pardon des péchés qui est possible en Jésus, ils recevront le juste châtiment de leur faute. Et ainsi, ils glorifieront Dieu, mais en témoignant éternellement de sa sainte colère et de sa puissance. Quant aux croyants, ceux qui étaient de même spirituellement morts en Adam, mais qui sont parvenus par la grâce de Dieu à la foi en Jésus-Christ, eh bien eux aussi glorifieront Dieu, mais en témoignant éternellement quant à eux de son incroyable miséricorde et de son amour sacrificiel. Pour nous qui croyons, la justice de Dieu a été satisfaite en Jésus sur la croix. De sorte qu'au jour de son avènement, au lieu de subir le châtiment que nous méritons au fond, nous recevrons plutôt la gloire du Fils éternel de Dieu en vertu de notre union à lui. Et nous offrirons au Père un culte de reconnaissance pour toute l'éternité. Alors si quelqu'un vous demande un jour, quel est le but de ta vie? Quel est le but de ta vie, Loïc, ou Judson, ou Christophe, ou Thierry, ou Guillaume, ou Lucien, ou Karine, ou Timothée, ou Michael? Quel est le but de ta vie? Que lui répondrez-vous? Le but de ma vie? Faire beaucoup d'argent? Me marier, avoir des enfants, profiter un maximum de tout ce qui est agréable, éviter autant que possible la souffrance, devenir président de la République, percer le mystère du Big Bang. Vraiment? Et si le but principal de la vie de l'homme, c'était de glorifier Dieu et de trouver en lui son bonheur éternel? C'est en tout cas l'enseignement de la Bible. Dieu crée l'homme pour sa propre gloire. Dieu punit le péché pour sa propre gloire. Dieu sauve l'homme pour sa propre gloire. Vous n'existez que pour sa gloire. Et si vous vous confiez en Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, alors sa gloire, la gloire de Dieu, devient votre bonheur. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville, dit l'Écriture. C'est-à-dire, heureux ceux qui sont pardonnés pour leurs péchés, afin de pouvoir vivre éternellement dans la bienheureuse présence de Dieu. Pour conclure, imaginez que votre voiture tombe en panne, alors qu'elle est encore sous garantie. Diagnostic, un cylindre du moteur est cassé. Le garagiste vous dit « Mais pas de problème, je vous remplace le moteur ». Une semaine plus tard, vous allez récupérer votre voiture chez le garagiste. Vous mettez la clé dans le contact, vous la tournez, mais rien ne se passe. Rien ne se passe. Alors, vous ouvrez le capot, pas de moteur. Vous interpellez le garagiste, qui vous répond « Mais je vous ai mis un moteur tout neuf, comme promis. Il est même encore dans son emballage, je l'ai mis dans le coffre. » Absurde, non ? Une voiture en panne, non seulement a besoin d'être réparée, mais elle a aussi besoin d'être reconditionnée, et tout ça afin d'être réutilisée. Parfois, on pense que le salut que Dieu nous offre en Jésus est un peu comme ça. C'est une réparation gratuite, mais qui ne sert pas à grand-chose. Alors qu'en réalité, non seulement Dieu nous répare, mais il nous reconditionne afin de nous réutiliser. En Jésus, non seulement Dieu règle notre problème fondamental, qui est celui du péché, mais il restaure notre condition d'origine en nous libérant de la tyrannie de la mort, et il rétablit notre utilité éternelle, qui est de le glorifier à jamais. Voilà à quoi ça sert la foi. Et voilà pourquoi la foi Ce n'est pas pour nous une simple commodité, mais c'est toute notre vie. Amen. Je vous invite à prier. Merci pour l'enseignement de ta parole, Seigneur, ce matin. Merci de nous rappeler à quel point le salut que tu nous offres en Jésus-Christ est complet. Il est complet. Ce n'est pas juste une bonne mutuelle, ce n'est pas juste une aide pour affronter la vie, mais c'est toute une vie. C'est toute notre vie. Aide-nous à en prendre conscience jour après jour, afin de marcher d'une manière digne de l'Évangile. Digne du sang qui a été versé pour nous, digne de la puissance que tu as déployée en ressuscitant ton Fils. Et c'est en son nom, au nom de Jésus, que nous prions. Amen.